Je me réjouis de la bonté et la miséricorde de Dieu parce qu'il s'adresse à nous avec beaucoup d'amour. Il s'adresse à nous avec beaucoup de patience. Et ça, je le dis pour moi-même. Après, chacun doit juger soi-même. Et je crois que Dieu est patient. Et depuis quelques temps, nous avons entamé une série de messages sur le mot « s'établir ». Ce mot a retenti dans mon cœur. Et nous avons eu l'occasion de parler de « s'établir dans la promesse ». S'établir dans la vision. Ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur le thème « s'établir dans la victoire par la souffrance ». Parce que il n'y a pas de victoire sans souffrance. Que ça soit clair. On ne peut pas dire « j'ai remporté le combat si je n'ai pas combattu ». N'est-ce pas? Et ce n'est pas n'importe quelle souffrance. Parce que je crois qu'aucun d'entre nous aime souffrir. S'il y en a, venez, on prend rendez-vous. On va discuter un petit moment. On n'aime pas souffrir. Aimer souffrir, avoir envie de souffrir pour souffrir, c'est qu'il y a un problème. Et cela demande de savoir demander de l'aide. Mais la parole de Dieu ne nous cache pas et à chaque fois que Dieu parle, Dieu ne nous promet pas des choses dans la facilité, il ne nous promet pas des choses qui nous coûtent rien, il ne nous dit pas « voilà, juste je t'aime, c'est pas grave, t'as péché, c'est pas grave ». Non, vous n'entendrez jamais Dieu dire ça. Si quelqu'un vous dit « Dieu te dit ça », je vous dis « bouchez vos oreilles, partez en courant ». Parce que Dieu ne parle pas ainsi. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse, frères et sœurs, chacun d'entre nous, parce qu'on aime bien s'établir dans la promesse, on aime bien s'établir dans la vision, mais est-ce qu'on est prêt à s'établir dans la victoire, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de victoire sans... Très bien, je vais m'assurer que ça reste. Alors, on va faire une série de lectures ce matin, parce que je crois qu'il n'y a rien que mieux que la parole pour parler de la part de Dieu. N'est-ce pas? Premier texte, 2 Timothée, chapitre 1, les versets 1 au verset 13. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 13. C'est Paul qui écrit à Timothée, son enfant spirituel, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi. » Vous avez la même chose sur vos Bibles ? Comme un bon soldat de Jésus-Christ, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre. Jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Paul exprime à Timothée des vérités qui ne sont pas valables que pour Timothée, mais aussi pour nous, aujourd'hui. Nous sommes en l'an de grâce 2020. Pourquoi de grâce? Parce que tant qu'on peut dire aujourd'hui, c'est encore le jour de la grâce, n'est-ce pas? Mais il arrivera le temps où ce temps de grâce, la porte de la grâce, va être fermée. Donc saisissons la grâce qui est en Jésus-Christ, comme l'apôtre le dit. Mais l'apôtre Paul ne vend pas à Timothée une idée d'un ministère qui ne coûte rien. D'ailleurs, Jacques chapitre 1, versets 2 et 4, il nous dit aussi, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Quand l'apôtre Paul dit à Timothée, qui est en formation, qui est, je dirais, peut-être au début de son ministère, il dit, Timothée, souffre avec moi. Ce n'est pas des paroles à la légère. Parce que Paul se trouve lui-même en ce moment-là en prison, mais malgré qu'il y a des chaînes à ses pieds, à ses mains, il continue de croire, de prêcher, d'annoncer Jésus-Christ vivant qui libère. Quand on est libre, c'est facile de parler de liberté. Mais quand on est lié, on peut se dire « mais tu ne peux pas parler de la liberté, tu ne la vis pas ». Sauf que la véritable liberté auquel Christ nous appelle, c'est celle de notre âme, de notre esprit. Et même si notre corps devait être enfermé, néanmoins, notre cœur doit demeurer libre en Jésus-Christ. Cet été, avec Elisabeth, on a passé une journée dans une petite ville tout près, Aiguemorte. Et on a profité de faire un petit tour en bateau. Et quand on est arrivé tout près de la forteresse, la tour de Constance, le guide a fait un moment d'évangélisation. Ah oui, croyez-moi, il a évangélisé. Moi, j'étais là, je disais, alléluia, vas-y, continue. Parle, c'est bien. Et il parlait de la foi de ces chrétiens qui ont été enfermés dans cette tour. Il a cité des noms, je ne vous les cite pas. Comme ça, ça vous invite à y aller. Ça donne à réfléchir. Et là, il y a particulièrement l'histoire d'une femme. Tu souffles toujours les réponses? Je le dis en souriant. Hein. Puisque notre sœur, elle vous l'a dit. Elle s'appelle comment ?
Marie-Durand.
Voilà. Cette femme, elle est restée quasiment 40 ans. 40 ans. Elle est restée enfermée 40 ans parce qu'elle n'a pas voulu renier sa foi. Parce qu'elle n'a pas voulu donner les informations pour que son frère, qui était pasteur, soit emprisonné et tué. 40 ans. Et pendant ces 40 ans, elle a pris soin de tous ceux qui étaient enfermés avec elle. Et quand ce guide parlait de cette histoire, moi je vous dis sincèrement, d'un côté, ça m'a touché profondément. De l'autre côté, j'étais fier de dire « Seigneur, merci pour de tels hommes et de telles femmes qui ont su t'honorer de cette manière-là. Et aujourd'hui, des non-chrétiens ne peuvent faire autre chose que confesser que la foi vivante, elle existe encore. Amen. » Et je crois, frères et sœurs, que nous sommes tous appelés à avoir ce type de foi. Et contre, la parole de Dieu nous dit que les diverses épreuves, elles sont là pour nous amener à être accomplis dans la patience. Avoir mûri dans la patience. Nous sommes tous patients, hein. Oui ? Qui peut dire que ce matin est arrivée déjà la maturité de la patience ? Moi, je garde bien mes mains dans les poches. Hein, parce que j'ai besoin encore de grandir. Alors, l'apôtre Paul, il communique à Timothée et il nous parle à nous tous, et il parle à l'Église. D'ailleurs, je suis parfois étonné qu'on puisse donner, excusez-moi, un crédit à des promesses très légères en disant « Dieu te dit que voilà, tout va aller bien. Pas de soucis, t'inquiète pas. » Parfois, j'ai entendu des personnes parler d'un appel au ministère où voilà, Dieu m'a promis des grandes choses. Je vais prêcher aux foules. Pas de soucis, les finances, tout ira bien. Parce que le pauvre Paul, lui par contre, qu'est-ce qu'il a dégusté hein ? Actes chapitre 9, versets 15 et 16. La parole de Dieu nous dit « Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Jusque-là, tout va bien. Et je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Waouh ! Et nous, on aimerait s'arrêter au verset 15. Sauf que le 16 est rattaché. On ne peut pas enlever que la réalisation de la promesse de Dieu amène très souvent à la souffrance parce que c'est aussi ce qui fait mûrir notre qualité personnelle en Christ. Quand Dieu nous appelle à le servir, ce n'est pas parce qu'on est parfait, hein, mais parce que Dieu va travailler le perfectionnement en nous et tout en travaillant dans nos cœurs, il va se servir de nous pour travailler d'autres. Mais on a tous besoin, et moi en premier, de cette œuvre de Dieu. Et cette œuvre, elle passe aussi par la souffrance. 2 Corinthiens 11, versets 22 à 30, l'apôtre Paul, qui se trouve dans une phase assez particulière, il doit s'expliquer, s'exprimer par rapport au ministère qu'il a reçu, parce que certains disent « Mais c'est pas possible qu'il ait un ministère, ce bonhomme-là. Regarde-là, il n'a rien à dire. Il ne paye pas mine. Il est même petit. Il n'est même pas beau. Il est même malade. Il a un médecin avec lui, c'est quoi ça ? » Et l'apôtre Paul répond, « Sont-ils hébreux ? Moi aussi. Sont-ils israélites ? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham ? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en homme qui extravague, je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus. » Par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens. En péril dans la ville, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible ? Que je ne sois pas faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est dans ma faiblesse que je me glorifierai. Vous savez, pour arriver à dire ça, c'est que Paul est passé à la moulinette. Et pourtant, si je prends l'appel de Dieu, puisque Dieu l'a appelé particulièrement, et il a envoyé quelqu'un pour prendre soin de Paul, parce que je vous rappelle que sur le chemin de Damas, Paul reçoit la révélation de qui est Christ, ce que Christ attend de lui, et Paul repart aveugle de cette situation. Il a besoin en réalité d'un temps dans lequel il se laisse conduire, accepter de se laisser prendre par la main, accepter d'être amené là où peut-être on n'aurait pas voulu aller, mais Dieu nous y emmène. Et dans ces conditions, il faut que Dieu envoie quelqu'un qui prie pour Paul et les écailles tombent de ses yeux. Et après quoi, l'apôtre Paul, pendant 3 ans, va remettre en question tous les enseignements qu'il avait reçus et il les replace dans le bon cadre en plaçant Jésus au centre de tout, puisqu'il est l'accomplissement, pas seulement de la promesse, mais aussi des prophéties. Et là, l'apôtre Paul prend une dimension. Mais néanmoins, pour être celui qui allait parler au roi, qui allait parler aux nations, il a dû vivre tout ça. Nécessité. Je dirais que la souffrance est un révélateur, un accélérateur, un mesurateur. Alors, je ne sais pas si le mot mesurateur, ça n'existe pas, je sais. Mon correcteur m'a mis tout en rouge. J'ai dit, c'est pas grave, je l'aime trop, je le garde. Pourquoi ? Parce que la souffrance, premièrement, elle révèle le fond du cœur. Elle accélère le processus où on mûrit. Elle nous permet de manière de mesurer où on en est. Non ? On va lire ensemble un autre texte qui se trouve en Philippiens au chapitre 1. Alors, je vous ai dit ce matin, on a beaucoup de lectures, mais je pense que rien que mieux que la parole pour parler de la part de Dieu. On n'est pas là pour faire de la philosophie, on est là pour partager la bonne parole. Paul à Timothée, et Timothée, pardon, serviteur de Jésus-Christ à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je regarde, grâce à mon Dieu, de tous les souvenirs que je garde vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est pour et par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter, ça va venir, quelques tribulations dans mes liens, qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. faut le dire. Mais s'il est utile pour moi, pardon, pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, et qui est de beaucoup et le meilleur, mais à cause de vous. Il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeure tant que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement. Là, c'est la mesure. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme par la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu. Et là, je vous invite à bien noter ce texte. Car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. La grâce n'est pas que tout va bien, mais l'apôtre Paul dit, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire, mais aussi de souffrir pour Christ, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Alors quelqu'un, et justement, me dira, il n'est pas question de souffrir pour souffrir, non ? Personne, en sortant de ce lieu, va se dire, Seigneur, je veux souffrir. Je vous répète, si telle est votre conviction dans votre cœur, elle reste la vôtre. Moi, je sais que les souffrances, je n'ai pas besoin de les chercher, elles viennent toutes seules. N'est-ce pas? Mais je sais aussi que celui qui permet que la souffrance, elle vienne pour me faire grandir dans la foi, a prévu que cette œuvre, elle s'accomplisse d'une certaine manière. Mais je dois faire la différence, par contre, avec les souffrances que j'ai pu générer par mon attitude, que je ne peux pas dire « Ah, c'est Dieu qui m'envoie ceci ». Excusez-moi, si j'agis mal, les conséquences, elles sont liées à mon action. Je ne peux pas prétendre que ce soit l'œuvre de Dieu dans ma vie pour me transformer. Non, tu as mal agi. Et cela, tu dois aussi prendre ta part de responsabilité. Alors certes, si tu viens avec un cœur repentant à Dieu, la grâce de Dieu sera là pour te soutenir. Vous savez, ces frères et ces sœurs qui n'avaient rien fait de mal à part que donner leur cœur à Dieu, ils ont souffert. Hein? Et ils auraient pu se dire à ce moment-là, mais on a dû se tromper de direction. C'est pas normal que je souffre. Peut-être je me suis trompé. Mais ils ont bien compris que la victoire, et on va arriver au point de la victoire, est lié par un parcours particulier qui nous amène parfois, frères et sœurs, à nous libérer, nous défaire de ce qui n'a rien à voir dans notre vie. Quand vous sortirez de ce lieu, vous faites bien attention, vous regardez là où vous mettez les pieds, vous verrez, il y a des limaces d'or. Regardez-les. Il y en a des petites. Il y en a des grandes. Ils ont de drôles de maisons. Certaines, elles sont bombées. D'autres, elles sont toutes fines. Ça fait une espèce de tourbillon. On dit, mais pasteur, il va même sur le parking, il va regarder. Ben oui, parce que tout m'enseigne quelque chose. Et vous savez, parfois, on vient dans la maison du Seigneur, on repart avec nos bagages et notre maison et tout ce qui nous pèse. Regardez s'ils arrivent à aller vite, les limaces. Si se libérer des fardeaux, alors peut-être que vous avez le sentiment que vous n'avancez pas dans votre vie spirituelle. Il faut vous libérer. faut choisir d'enlever. Et parfois, la souffrance, elle permet de dire, mais ça, en effet, je n'en ai pas besoin. Allez, hop. Et là, le Seigneur te dit, mais regarde, t'as vraiment besoin de ça? Ça fait 20 ans que tu te traînes avec ça. Oui, Seigneur, t'as raison. Mais c'est l'orgueil, Seigneur, quand même. Il en faut un peu. Le Seigneur te dit, non, regarde, t'aurais pu avancer beaucoup plus. Mais Seigneur, j'y arrive pas. Attends, je vais t'aider, moi. Je vais te soigner. Et là, d'un coup, hop, ça coupe. Et vous savez, pour soigner l'orgueil, qu'est-ce qui soigne de l'orgueil? L'humiliation. Et là, je peux vous dire que... Mais une fois qu'on comprend, on se dit, j'avais pas besoin de ça. Qu'est-ce que l'orgueil a pu faire dans ma vie pendant 20 ans? Ça m'a pourri l'existence. Alors, il n'est pas question de souffrir pour souffrir. 1 Pierre chapitre 3, versets 17 et 18. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert, une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin que de nous amener à Dieu, ayant mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. J'ai noté cela et j'ai pris cette phrase par 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 20, qu'il y a des souffrances qui nous identifient au Maître. À quoi nous serons-nous reconnus? Non pas à cause d'une étiquette, non pas à cause d'un badge, non pas à cause de je ne sais pas quoi, c'est pas parce qu'on dit « je suis chrétien » que forcément on en est un. M'excusez, mais j'ai parfois rencontré de drôles de personnes. Je m'arrête là. Et parfois, j'ai entendu des personnes non chrétiens me dire « Écoutez, si ça c'est un chrétien, je préfère rester comme je suis. » Et je peux comprendre. Et avec cela, je juge personne. Mais je me dis « Seigneur, on a des efforts. » Et le tout, ce n'est pas de crier haut et fort ce qu'on est, mais c'est de le vivre parce que ce qu'on vit parle plus fort que ce qu'on dit. N'est-ce pas ? 1 Pierre chapitre 2, versets 20 à 25. « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et cela, que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. » Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il n'y a point trouvé de fraude, lui qui injurait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais se remettant à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Peut-être que dans le lieu où vous travaillez, vous êtes maltraité à cause de la foi. Alors certes, ce que je vais vous dire, ça ne va pas vous plaire. C'est une grâce de souffrir pour le Seigneur. Dites-vous-le vous-même le matin quand vous arrivez à votre lieu de travail. Peut-être dans votre famille, vous n'êtes pas aimé. Je dirais même, on vous bouscule dans tous les sens. C'est une grâce. Parce que vous êtes offrant pour le nom de Jésus-Christ. Au même titre, excusez-moi et sans comparaison, mais de ceux qui ont peut-être passé des années en prison. On a d'autres types de prisons, elles peuvent être morales, psychologiques, physiques, tout ce qu'on veut. Mais là aussi, nous sommes témoins de Jésus-Christ. Parce que vous savez, il y a toujours quelqu'un qui voit la vérité. Il y a toujours quelqu'un dans le voisinage qui dit, oh là, chapeau cette personne. Qu'est-ce qu'elle a souffert, mais elle a toujours été un exemple par sa douceur. Jamais un mot plus qu'un autre. Et Jésus nous invite à cela. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand on souffre? Quelqu'un pourrait dire, ah ben alors, allons-y, sortons les fouets ce matin, hop, et on se martifouette. Hein? Ça n'existe pas? Ajoutez-le. Cadeau. Martifouetter. Vous savez, il dit un temps... Et il se frappait. Un jour, j'ai rencontré un monsieur. C'était dans un petit village de montagne. Et il me montre des photos de certaines choses qu'ils faisaient dans leur village. Ils étaient très religieux et tout. Vous savez, il me disait... Moi, j'étais là pour le travail. Il me dit, voilà, moi, ça fait des années, tous les ans, je fais la procession. Alors, il m'explique. Il prenait un bouchon en liège. C'est ce qu'ils font dans ce village. Il mettait 17 morceaux de verre et se frottait les jambes pour que le sang coule. Il se frappait, il se mettait dans un état. J'ai vu les photos et je lui ai dit, vous avez fait ça pourquoi? Il dit, pour que mes filles elles se marient. Avec beaucoup de respect, je lui ai dit, écoutez monsieur, elles sont mariées? Il me dit non. J'ai marqué la pause. Je me suis dit, mais est-ce que ça a servi à quelque chose que vous avez fait, monsieur? Il m'a dit, mais je continue. Je lui ai dit, il n'y a pas pire. Je lui ai dit, ça n'a pas marché. Ça fait combien d'années? Ah, ça fait bien des années. Je lui ai dit, arrêtez-vous. Je lui ai dit, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer ce que la parole de Dieu dit. Je lui ai dit, à quel moment Jésus vous demande de faire ça? À quel moment vous décidez de vous frapper parce que vous pensez que comme ça vous allez gagner quoi que ce soit auprès de Dieu? Le Seigneur vous regarde et dit, mais qui t'a dit de faire ça? Je dirais même, il se détourne de ça parce que c'est un esprit religieux, il n'a rien à voir avec la foi. Jacques chapitre 5 verset 13. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Est-ce que quelqu'un parmi vous ce matin est dans la souffrance, qu'il prie? Il ne dit pas faites une manif. Il ne dit pas allez bloquer les ronds-points. Il ne dit pas installez-vous un petit gilet coloré, j'en sais rien. Il ne dit pas faites ceci ou faites cela. Ou il ne dit pas essayez de retourner le regard de tout le monde. Non, il dit qu'il prie. Parce que je crois que dans cette réaction, il y a une action spirituelle et une puissance de Dieu qui se libère et qui transforme le mal en bien. Mon frère, ma sœur, je compatis pleinement aux souffrances qui peuvent être les tiennes, qui sont certainement les nôtres. Mais ça ne sert à rien de se débattre pour nous libérer des souffrances en disant comme ça j'irai mieux. Non, tu as besoin aussi que l'œuvre de Christ s'accomplisse pleinement dans ta vie. Excuse-moi, mais plus tôt tu le comprendras, plus tôt tu passeras à l'étape de la victoire, parce que il est question de vaincre, non? Pasteur, tu l'as mis dans le sujet, s'établir dans la victoire par la souffrance. Mais là, on a vu beaucoup de souffrances. Et la victoire. Un texte. Apocalypse chapitre 2 versets 10 et 11. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Mais la victoire passe par la souffrance. Et la victoire, excusez-moi, ne s'obtient que après avoir remporté le combat. Et le plus grand combat que nous avons, c'est souvent avec nous-mêmes. c'est le plus difficile. Non ? Parce que quand on a un combat avec quelqu'un d'autre, on peut déménager. Non ? Si on n'aime pas les conflits, on déménage. Mais néanmoins, le conflit reste. Et moi, j'ai appris quelque chose. Alors peut-être que ce n'est pas la même leçon que vous avez appris vous, mais moi, je vous parle de la mienne. C'est que quand on part avec les problèmes, ils nous suivent parce qu'ils sont dans nos valises. Donc, la Bible, elle dit, relève-toi là où tu es tombé. Si tu as un problème, va voir la personne, règle ton problème. Autrement, le conflit demeure. Ah oui, mais il y a de la souffrance. Oui, mais tu ne veux pas utiliser le traitement. Il y a une manière de se soigner, non ? Au lieu de garder ce traumatisme, cette souffrance, cette peine qui t'empêche de te développer en Jésus-Christ. Et comme je disais tout à l'heure, les souffrances peuvent être autres. J'ai connu une petite mamie qui m'a appris beaucoup. Cette mamie, je l'ai rencontrée un soir, suite à la demande d'une sœur. On est allé la voir et cette femme, elle était restée enfermée chez elle parce que son mari était contraire à l'évangile. Persécutée à cause de l'évangile, dans sa propre maison. Cet homme prenait la Bible de sa femme, il la balançait par la fenêtre. Elle allait dans la rue, peu importe le temps que c'était, elle ramassait feuille après feuille. Elle rentrait chez elle. Il est allé auprès du tribunal pour la faire juger incapable d'entendre, de vouloir, esclave. Le juge a donné raison. Et cette femme, elle n'avait plus de droit. Et quand j'ai rencontré cette femme, son mari était à l'hôpital. Il était en fin de vie. Et une sœur m'a dit, est-ce que tu peux venir voir cette sœur ? Je dis, mais je ne la connais pas. Mais elle était où, cette sœur ? Il dit, elle n'a jamais pu venir à l'église. Elle s'est convertie à partir du jour de sa conversion. Son mari lui a fait la guerre. J'ai rencontré cette sœur et je lui ai dit, sœur, mais pourquoi vous ne venez pas à l'église ? Vous voulez venir ? Vous voulez que dimanche on passe ? Il dit non. Quand le Seigneur aura touché le cœur de mon mari, je viendrai à l'église parce que je sais que je ne serai pas en tort vis-à-vis de ma relation et du respect que je dois à mon mari. Waouh ! Je ne vous dis pas, même pas un millième de ce qu'elle m'a raconté, de ce qu'elle a subi. Hein. Et sur le lit de mort, elle va voir son mari, lui dit, tu sais, Jésus t'aime, moi aussi, mon chéri. Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble ? Et vous savez quoi ? Sur le lit de mort, cet homme, il a dit oui. Sur le lit de mort, cet homme a donné son cœur au Seigneur. Il est parti, et le dimanche d'après, cette sœur est venue à l'église. Mais vous savez ce qui avait été fait au niveau de la loi ? Rien n'a changé, hein ? Elle devait demander à ses enfants même le droit d'avoir un tout petit peu de sous si elle voulait s'acheter un livre. Quelle humiliation quand même. Mais je n'ai jamais vu cette sœur, une seule fois, faire la tête, pleurer. Elle venait à l'église, elle était souriante, elle avait toujours un mot de consolation pour tout le monde. Jamais elle s'est plaint auprès de qui que ce soit. J'étais quasiment le seul à savoir ce qu'elle avait vécu. Alors, attendez, comprenons bien, je ne suis pas en train de faire un... Mais je me dis que ça nous donne des leçons. Ça nous apprend, frères et sœurs, qu'il y a une autre manière de combattre et de vaincre. Et certes, moi en premier, quand on est accusé à tort, on se débat. Non ? C'est normal. Mais quand l'accusation n'est plus de l'ordre, je dirais, humain, matériel, qui est spirituel, comment réagir ? Quelqu'un parmi vous souffre ? Qu'il prie. On va fermer nos yeux. Et ce matin, je voudrais que on puisse ensemble prier. Peut-être certains se disent, je le fais, je prie, mais j'ai le sentiment que ça n'avance pas. Mais je crois que quand l'Église unie en Christ animé du Saint-Esprit, élève une prière. Dieu intervient et vient au secours de nous tous. Et on a besoin les uns des autres. Seigneur, ce matin,